Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Idrissa Seydoudia et Tatiana Mosso, bienvenue à l'édition du jeudi 13 août 2015. À la une ce soir.
La Guinée-Bissau sans gouvernement suite à une mésentente au sommet de l'État.
Au Tchad, arrestation hier soir à N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Renforcement du dispositif de sécurité dans un quartier de Bamako visé par une attaque dans la nuit de mercredi à jeudi.
De gigantesques explosions dans la métropole portuaire de Tianjin, dans l'est de la Chine, ont fait au moins 50 morts et plus de 700 blessés.
Nouvel attentat terroriste à Sadr City, un quartier chiite de Bagdad, la capitale irakienne.
Voilà pour les titres, nous aurons également nos bulletins sur l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
La tension monte en Guinée-Bissau, une crispation de la situation politique suite au décret présidentiel après le discours du président de la République, José Mario Vaz, mettant fin au gouvernement de Domingo Simoes Pereira. Les précisions de Noua Mankali.
Le président de la République, José Mario Vaz, après son discours à la nation, a émis un décret présidentiel mettant fin au régime du Premier ministre Domingo Simoes Pereira. Aujourd'hui, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le mouvement national de la société civile, à travers son président Georges Gomis, s'est lamenté de la position prise par le chef de l'État, José Mario Vaz, en mettant fin au régime de Domingo Simoes Pereira. Pour le moment, tout est calme dans la capitale Bissau où le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, vainqueur des dernières élections présidentielles et législatives, a convoqué tous ses militants et sympathisants de sortir dans la rue pour assister au discours du président du PAIGC et ex-premier ministre Domingo Simoes Pereira. Quant aux députés de la nation, ils proposent en ce moment de terminer avec le régime du chef de l'État avant qu'il ne soit tard. Il faut souligner que la situation politique semble être très tendue en ce moment en Guinée-Bissau, car nul ne peut imaginer ce qui peut arriver après, vu la division du peuple bissau-guinéen sur cette situation très difficile qui sévit en Guinée-Bissau. Noua Mankali Bissau, VOA Afrique.
Mali, important dispositif policier dans un quartier de Bamako visé par une attaque dans la nuit de mercredi à jeudi. Un poste de police a été visé par une attaque d'hommes armés non identifiés, faisant 2 blessés. L'attaque s'est produite à la gare routière de Sogonico, un quartier du sud-est de la capitale. Les activités avaient repris jeudi matin dans une partie de la gare la plus importante de Bamako. Des sources militaires et policières n'excluaient pas une action de djihadistes qui multiplient depuis des mois les opérations contre les forces nationales et internationales.
Nigeria, le président Buhari donne 3 mois à l'armée pour en finir avec Boko Haram. Ce jeudi, plusieurs nouveaux hauts responsables ont prêté serment pour en finir avec les insurgés du groupe islamiste. Boko Haram, qui a fait allégeance à l'organisation État islamique et sa répression par les forces de l'ordre nigérianes, ont fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés au Nigeria depuis 2009. Sachez que 10 personnes, dont 2 soldats camerounais, ont été tuées dans le nord du pays lors d'une attaque des insurgés islamistes nigérians de Boko Haram.
Arrestation hier soir à N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Selon un membre de l'Union nationale des étudiants du Tchad, la police les a appréhendés au cours d'une réunion où ils devaient mettre en œuvre la revendication de paiement de leur bourse d'études en votant le déclenchement d'une grève dans les universités du pays. Jacques Aristide.
La réunion regroupait tous les secrétaires généraux des sections provinciales du syndicat UNET, arrivés dans la capitale tchadienne en vue de préparer cette grève. Une source policière tchadienne a confirmé à l'AFP l'arrestation de la trentaine d'étudiants qui ont été amenés dans les locaux de la police judiciaire. D'après les universités concernées, les étudiants réclament 6 à 9 mois d'arriérés de bourse. En mars, les écoles et universités de N'Djamena étaient restées fermées plusieurs jours à la suite d'une manifestation violente d'étudiants contre le port du casque obligatoire dont le prix avait augmenté. Et un mois plus tard, les enseignants des écoles et lycées publics de la capitale avaient également déclenché une grève pour dénoncer les retards de paiement de leurs salaires. Les membres de la société civile et de l'opposition demandent souvent au président Idriss Déby Itno d'utiliser la manne pétrolière pour améliorer les conditions de vie de la population.
En RDC, perpétuité requise pour les policiers accusés du meurtre du militant Chebeya. Le ministère public a requis jeudi la prison à perpétuité dans le procès en appel de 5 policiers accusés de l'assassinat en juin 2010 du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya. Ce réquisitoire rejoint les demandes formulées par les avocats des parties civiles dans leur plaidoirie de la semaine dernière.
Au Burkina Faso, des organisations de la société civile demandent l'annulation de 7 candidatures du CDP, le parti de Blaise Compaoré, aux élections législatives du 11 octobre prochain. Ces organisations, qui ont saisi le Conseil constitutionnel, reprochent à ces candidats du CDP d'avoir soutenu l'année dernière le projet de modification de la Constitution qui devait permettre à l'ancien président de briguer un troisième mandat. Dans leur requête, elles s'appuient sur le nouveau code électoral qui a pourtant été invalidé par la Cour de justice de la CDA.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De gigantesques explosions dans la métropole portuaire de Tianjin, dans l'État dans l'Est de la Chine, ont fait au moins 50 morts et plus de 700 blessés. Les déflagrations sont survenues hier, peu avant minuit, dans le nouveau quartier de Minhai, une vaste zone d'usines et d'entrepôts, l'un des principaux ports de Chine. Salwa Javari.
Deux grosses explosions à quelques secondes d'intervalle. Les détonations étaient si puissantes que les riverains ont cru à un tremblement de terre, une boule de feu géante et des nuages de poussière. Minhai avait des allures d'apocalypse ce matin. Des rangées de voitures neuves calcinées, des conteneurs éparpillés. Un millier de pompiers a été déployé. Et puis, dans les hôpitaux, c'est toujours la panique générale. Au moins 50 morts, 700 blessés. Et le bilan est toujours provisoire. Les causes de ces détonations restent inconnues, mais les premiers éléments de l'enquête privilégient l'hypothèse de la négligence. La Chine est coutumière de ces catastrophes. L'été dernier, près de Shanghai, 75 personnes ont péri dans l'incendie d'une usine de pièces détachées.
Des images spectaculaires et je vous invite à les voir sur notre site internet VOA Afrique.
Bagdad, de nouveau le théâtre d'un attentat. Un camion bourré d'explosifs a explosé juste après l'aube dans un marché bondé de Sadr City, un quartier chiite de la capitale irakienne. On fait le point avec Morgane Guirec.
Le bilan de cette dernière attaque s'élève à au moins 67 morts et des dizaines de blessés. Un carnage revendiqué par le groupe État islamique qui considère les chiites comme des hérétiques. Le groupe extrémiste sunnite s'est emparé d'une grande partie du territoire irakien en capitalisant sur la frustration des populations sunnites dirigées par un gouvernement majoritairement chiite. Les autorités irakiennes se battent donc aux côtés des milices chiites contre l'État islamique dans plusieurs provinces. Dans le même temps, une campagne américaine vise ces djihadistes, mais le chef de l'état-major américain met en garde. Les frappes aériennes ont fait de faibles progrès et le conflit semble être dans l'impasse. Washington devrait envisager d'envoyer des soldats américains aux côtés des forces irakiennes, estime ainsi le général Ray Odierno.
Au moins 2 personnes ont été tuées et 14 blessées jeudi dans des tirs de roquettes de rebelles sur la ville balnéaire de Latakia, fief de la communauté alaouite dans l'ouest de la Syrie, dont Bachar al-Assad est issu, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, des raids de l'aviation syrienne contre différentes localités tenues par les rebelles près de Damas et dans le nord-ouest ont causé la mort de 23 civils, dont 6 femmes et 6 enfants, selon l'ONG cité par l'AFP.
Un tribunal militaire antiterroriste pakistanais a condamné à la peine capitale 6 hommes impliqués dans le raid des talibans contre une école de Peshawar qui avait fait plus de 150 morts en décembre, a annoncé jeudi l'armée dans un communiqué. Le gouvernement d'Islamabad avait, après cette attaque, levé son moratoire sur la peine capitale, en vigueur depuis 2008, et donné son feu vert à la création de nouveaux tribunaux antiterroristes militaires pour juger des civils.
En Suède, les procureurs ont annoncé que l'enquête sur les allégations de viol contre Julian Assange continuera après avoir annulé, pour des raisons de prescription, des chefs d'accusation moins graves contre le fondateur de Wikileaks. Assange s'est réfugié depuis 2012 dans l'ambassade équatorienne à Londres suite au feu vert des tribunaux britanniques pour son extradition en Suède. Mais il craint de finir plus tôt aux États-Unis où il est recherché pour la publication de documents et câbles top secret.
Depuis cette nuit, la Terre vit sur ses réserves. L'humanité vit désormais au-dessus de ses moyens. Au moins de 8 mois, elle a déjà consommé toutes les ressources naturelles renouvelables que la planète peut produire en un an.
Voilà pour le journal. Et maintenant, un coup d'œil sur l'économie, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement reste l'institution financière la mieux notée du continent par l'agence Fitch Ratings. Celle-ci vient de confirmer les 3A attribués à la BAD avec des perspectives stables, indique Jeune Afrique. Dans son évaluation, l'agence met l'accent sur le soutien solide des actionnaires de la banque, sa bonne capitalisation et une gestion prudente du risque. Une mission d'affaires sud-africaine conduite par le vice-ministre sud-africain du commerce et de l'industrie se rendra au Nigeria et au Ghana du 17 au 21 août, rapporte l'APA. L'objectif est d'accroître le commerce et les investissements avec ces deux pays, essentiellement dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie et des mines. Le Cameroun vient de se doter de 2 nouveaux acropoles pour la production, la transformation et la commercialisation de pommes de terre et d'ananas à Mbouda et Nloé. D'un investissement de près de 3 milliards de francs CFA, le projet de Mbouda permettra de passer d'environ 15 000 tonnes de pommes de terre à quelque 47 000 tonnes dès l'année prochaine, selon le ministère de l'Économie. Et le gouvernement burkinabé va investir plus de 24 milliards de francs CFA dans le réseau routier de Ouagadougou avec un soutien financier de près de 19 milliards de francs CFA de la Banque Ouest-Africaine de Développement, rapporte le site d'info en ligne Westaf News.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie Barge.
Et nous retrouvons tout de suite Nicolas Pinault pour les sports. Bonjour Nicolas.
Bonjour Tatiana.
Coup de tonnerre dans la sélection brésilienne de football.
Thiago Silva, défenseur central du Paris Saint-Germain et ex-capitaine du Brésil, n'a pas été convoqué par le sélectionneur Dunga pour les 2 prochains matchs amicaux de la Seleção pour ses 2 derniers matchs de la saison avant d'entamer les qualifications pour le Mondial 2018. Le Brésil affrontera aux États-Unis le Costa Rica, ce sera le 5 septembre dans le New Jersey et le 8 face aux États-Unis à Boston. Thiago Silva, déjà déchu de son brassard après la Coupe du Monde, catastrophique en 2014, et déchu aussi de sa place de titulaire au profit de Miranda, cette fois, il a été carrément éjecté du groupe après la Copa América catastrophique qui s'est soldée par une piteuse élimination en quart de finale. À noter que l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, Hulk, fait son retour en sélection, lui qui n'avait pas été convoqué pour la Copa América, tout comme le revenant Lucas.
Jeux Olympiques 2024, l'Amérique qui pense toujours, Nicolas.
Le comité olympique américain s'attend à ce que Los Angeles fasse officiellement acte de candidature à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 après le retrait de Boston le mois dernier. On se souvient que Los Angeles a déjà organisé les Jeux Olympiques d'été à 2 reprises en 1932 et 1984.
Tennis, Nick Kyrgios se distingue une nouvelle fois et pour de mauvaises raisons.
L'Australien a écopé ce jeudi d'une amende de l'ATP après avoir tenu des propos insultants à l'égard du Suisse Stan Wawrinka lors du Master de Montréal. L'ATP a réagi à un incident survenu à la fin du premier set du match du deuxième tour entre Wawrinka et Kyrgios. L'Australien avait marmonné des propos très crus accusant la petite amie du Suisse d'avoir eu une relation avec un autre joueur du circuit. Sur le moment, le 5e joueur mondial n'a pas entendu les propos de son adversaire, mais ceux-ci captés par les micros de la télévision lui ont été rapportés après la rencontre, match qu'il a gagné.
Merci Nicolas Pinault pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydou Dia et Tatiana Mosso en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Au Mali, l'intensification des attaques terroristes dans le sud du pays serait la conséquence de la signature d'un accord de paix entre les rebelles et le gouvernement malien. Juguler cette menace prendra du temps, selon l'analyste Souleymane Drabo, ancien rédacteur en chef de l'Essor.
C'est peut-être la rançon de la signature de l'accord de paix qui a été signé le 15 mai, le 20 juin à Bamako entre le gouvernement et certains groupes armés. Parce que cet accord de paix a clarifié un peu le paysage des attaques. Tous les groupes qui avaient des velléités indépendantistes ou bien autonomistes respectent le cessez-le-feu aujourd'hui. Donc toutes les attaques qui ont lieu sont le fait de groupes vraiment djihadistes ou bien terroristes, de leur puissance de feu, de leur nocivité si vous voulez. Donc ces groupes djihadistes la multiplient, les attaques. Si vous regardez une carte du Mali, que ces attaques ne touchent plus tant le nord du Mali que le centre du pays. C'est une zone dont certains combattants sont originaires, et des combattants qui avaient rejoint le Nijao à l'époque de l'occupation du Mali en 2000.
Est-ce que l'État malien a les capacités de contenir ces attaques, voire même éradiquer cette menace?
Non, mais aussi bien l'armée malienne que la MINUSMA n'ont pas trop de capacités à combattre la guerre asymétrique qui leur est proposée. Ce sont des forces conventionnelles qui se déploient de manière assez classique. Aujourd'hui, il faut réorganiser l'armée malienne pour pouvoir combattre cette guerre asymétrique qui est imposée au Mali. Et le Mali aussi devrait demander à la MINUSMA de revoir le mandat de la force onusienne pour le permettre de prêter main forte à l'armée malienne dans ce nouveau combat qui est proposé. En fait, dans le contexte actuel, il n'y a que les forces, les Français de Barkhane, qui sont outillés, équipés, formés, entraînés à ce genre de combat.
Vous avez parlé de la signature de cet accord où plusieurs groupes armés ont accepté le cessez-le-feu. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir convergence de forces entre l'État malien et ses groupes armés pour pouvoir faire face justement à ces attaques terroristes?
Effectivement, c'est un des points importants qui figure dans les accords de paix, c'est de constituer des patrouilles mixtes pour sécuriser ce vaste territoire que constitue le nord du Mali. Mais la constitution de ces patrouilles mixtes est conditionnée par la mise sur pied d'abord du comité du suivi de l'accord de paix. Et donc ce sont ces points organisationnels et structurels qu'il faut mettre en place d'abord, qui retardent justement la constitution et l'entrée en action des patrouilles mixtes. Donc il est vraiment urgent pour toutes les parties, le gouvernement comme les groupes armés signataires de l'accord de paix, de se mettre d'accord tout de suite sur le comité de suivi.
Souleymane Drabo était joint à Bamako par Eric Manirakiza.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Cameroun, les autorités ont fermé les locaux de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Selon le Conseil national de la communication, les journalistes n'auraient pas respecté les mesures de suspension de 6 mois prises à l'encontre de 2 journalistes de la chaîne. On écoute les explications de notre confrère Albert Patrick Eya, directeur de l'information.
Le Conseil national de la communication, au mois de février dernier, a commencé à nous créer des problèmes et indiquant que le travail que fait Afrique Média posait des problèmes par rapport à la diplomatie camerounaise, qu'on attaquait les pays étrangers et les autorités étrangères. Ils estimaient que donc ce travail-là n'était pas bien. Et c'est pour cela que le 4 juin, ils ont donc pris une sanction à l'encontre d'Afrique Média.
Et une sanction que vous n'avez pas respectée?
C'est une sanction qu'on ne pouvait pas respecter parce que nous avons estimé qu'elle était disproportionnée, elle était démesurée dans la mesure où la faute de non-encadrement des panélistes est une faute qui n'est pas une faute directe professionnelle pour un journaliste. Il s'agit des invités sur un plateau, mais le CNC, pour la même faute, a sanctionné le journaliste en question pour 6 mois de suspension, a sanctionné les 2 émissions que sont le débat panafricain et le mérite panafricain. Et en plus de cela, le CNC demande que toute l'entreprise Afrique Média puisse fermer les portes pendant 1 mois. Nous avons trouvé que c'était un peu excessif et c'est pour cela que nous avons contesté cette sanction en saisissant non seulement la justice, mais aussi en essayant de nous opposer nous-mêmes à cette sanction que nous n'avons pas trouvée juste du tout.
Et du coup, vous vous mettez hors la loi, hein?
Oui, ce n'est pas une manière d'être hors la loi. Je pense que la loi doit être respectée par tout le monde. Lorsque vous jouez un rôle qui est celui du CNC et que vous avez le devoir de régulation, vous-même, vous devez prêcher par l'exemple.
Vous n'avez pas le soutien de toute la presse camerounaise. Kinin Som, par exemple, de l'Association des journalistes de la presse anglophone, affirme que vous auriez dû respecter cette suspension.
Oui, c'est un avis personnel de M. Kinin Som que je respecte beaucoup. Mais je pense que prendre la chose comme telle, ce n'est pas considérer le problème dans son fond. Il s'agit d'un problème de fond.
C'était Albert Patrick Eya, directeur de l'information d'Afrique Média. Il était joint à Yaoundé par Bagassi Koura.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur le 50e anniversaire du Voting Rights Act aux États-Unis. La loi garantissant l'accès des Africains-Américains au vote. Une victoire pour Martin Luther King. Mais 50 ans après, les minorités sont-elles toujours confrontées à des restrictions? La lutte pour le droit de vote, quelle inspiration pour l'Afrique? Que reste-t-il à faire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Les Centrafricains commémorent le 55e anniversaire de leur indépendance. Des célébrations sans grande festivité alors que le pays est toujours plongé dans une crise et attend les élections présidentielles. De notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Sans grande festivité, le 55e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine est passé sous silence. Depuis 1960, avec les différents régimes qui se sont succédés, le pays évolue en dents de scie. Pour ces centrafricains rencontrés dans les rues de Bangui, les hommes politiques ont lamentablement échoué dans la gestion du pouvoir public.
Le pays est par terre. Parce que les gens qui se sont succédés, ils ont mis le pays par terre. Et ça m'énerve. Je ne veux même pas vivre dans de pareils pays. Vous construisez votre maison en 20 ans, et puis en un jour seulement, on vient casser cette maison-là. Et vous trouvez ça juste?
On n'a pas su vraiment construire un État digne de ce nom. On a fait du pilotage à vue, la mode de gouvernance, et les conséquences se traduisent par la déconfiture du pays, avec notamment un déficit en ce qui concerne la construction des routes, la construction des hôpitaux, la construction des écoles et une économie qui est toujours en berne.
Après les 50 ans d'indépendance, je vois que le pays est encore en arrière parce qu'il y a la guerre.
Point de vue partagé au cours d'une conférence de presse par Maître Henri Pouzère, ancien ministre des Télécommunications et premier secrétaire national de l'association politique Londo. Pour lui, le peuple souffre aujourd'hui de tous les maux car le pays va de crise en crise. Il propose la réhabilitation des forces armées centrafricaines pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays.
Nous pensons qu'il faut absolument que tous les accords, n'est-ce pas, qui ont été faits jusqu'à présent puissent être revus. Ça ne posera en principe aucun problème. Donc ce qui veut dire que les FACA doivent effectivement, n'est-ce pas, être réhabilités. Des militaires formés, très formés dans tous les secteurs, y compris dans le génie civil, au pouvoir, n'est-ce pas, assurer la défense, la démocratie dans ce pays.
Docteur Maurice Guimendengo est historien à l'université de Bangui. Il voit le problème d'une autre manière.
La question du bilan est compliquée à donner comme ça, mais la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance. Je pense que ce serait un débat très intéressant. 55 ans après, nous avons, c'est quand même quelque chose comme 9 régimes qui se sont succédés, avec des régimes plus ou moins démocratiques ou avec, bien sûr, des coups d'État, enfin, etc. Mais tout cela, regardez là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est parce que, pour la plupart du temps, le pouvoir est véritablement incarné dans une famille.
Même si après 55 ans, la République centrafricaine présente un tableau assez sombre en termes de bilan, l'historien Maurice Guimendengo reste optimiste quant à l'avenir du pays.
Mais bien sûr, regardez le cas de l'Angola. Après une trentaine d'années, ils se sont relevés. Regardez le cas du Burundi, regardez le cas d'autres pays. Mais bien sûr, nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons les ressources naturelles, mais aussi nous avons les hommes.
Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Eh bien, une centaine de jeunes venus de 21 pays d'Afrique sont en colloque à Ouagadougou pour réfléchir sur le rôle et l'avenir de la jeunesse africaine dans le développement socio-économique du continent. De la capitale burkinabé, notre correspondant Zoumana Wonogo.
participation citoyenne des jeunes au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale pour un développement durable. C'est sous ce thème qu'est placé le premier colloque panafricain de la jeunesse de Ouagadougou. Cheikh Faïssal Traoré, envoyé spécial des Nations Unies pour l'agenda post-2015, y voit l'occasion de réaliser le rêve de la jeunesse africaine.
Nous percevons cette rencontre comme un acte fondateur d'une nouvelle race de jeunes, portant tous les espoirs d'un continent, une Afrique meilleure est possible. C'est celle dont nous rêvons. À l'image de Martin Luther King, nous nous permettons de rêver.
En attendant la réalisation de ce rêve, que veulent les jeunes Africains? Suivons.
Je m'appelle Louis Dossou du Bénin. Actuellement, il manque véritablement d'emploi pour les jeunes au Bénin. À côté de cela, il faut souligner qu'au Bénin, nous avons plein d'engagements de jeunes qui s'investissent dans le développement durable, qui veulent réellement oser. Mais il leur faut juste quoi? Le financement pour avancer.
Je m'appelle d'abord Lasm Niblaise. Je suis membre du bureau exécutif national de la jeunesse du Fonds populaire ivoirien. Parlant de mon pays, je pense qu'au niveau de la jeunesse, beaucoup reste à faire parce que la jeunesse est brimée, elle est opprimée, cette jeunesse est ostracisée, cette jeunesse n'a pas forcément droit à la parole.
Moussa Ibrahim Meïga, je suis du réseau national de la jeunesse du Mali. Nos préoccupations sont un peu partagées, à savoir les taux de chômage, il y a la scolarisation, le niveau de formation qui est vraiment très bas, qu'il faut rehausser, et surtout l'inadéquation, je veux dire, entre la formation que nous recevons à l'école et puis le marché de l'emploi.
Ouedraogo Toussaint, étudiant burkinabé, et si on doit se référer en tout cas au cadre académique, vu que je suis étudiant, il faut dire qu'au niveau de l'Université de Ouagadougou, précisément, nous, on demande beaucoup. Beaucoup parce qu'on manque d'amphi, on manque d'enseignants.
Moi, je suis Lloyd Rogoula. Je suis jeune Gabonais. J'ai beaucoup d'attentes, mais la principale attente, c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience des jeunes Burkinabés. Le Burkina Faso a un vécu. Il y a un certain nombre de choses que le Burkina Faso doit partager au reste de l'Afrique. En plus de cela, le Gabon aussi veut partager sa propre expérience, donc apporter son petit plus.
Avec Bilal Bouzid, jeune venu de la Tunisie, nous avons voulu savoir quelle est la monographie de la situation des jeunes Tunisiens après la révolution. Voici ce qu'il a dit.
Ah oui, on a fait la révolution, mais rien n'a changé au niveau de chômage. C'est le même problème en Tunisie. On a un taux de chômage très élevé. Il reste toujours le même problème pour les jeunes diplômés, pour même les jeunes sans diplôme. Il y a ouverture sur le niveau politique, sur le niveau associatif. On a plein d'associations. Ça encadre les jeunes pour avoir l'idée des jeunes et les appliquer.
L'expérience de l'insurrection survenue au Burkina constitue le thème non écrit du colloque. Les jeunes participants ne manquant pas de questions, Rasmane Ouedraogo du Burkina explique.
Nous n'avons pas fermé l'œil. Le Ghanéen, il nous a demandé comment vous avez pu faire ça. Du moment qu'on sent que le pays était avec une armada sécuritaire. Il y a plein la Côte d'Ivoire, il y en a marre du Sénégal, les Congolais de la RDC et Djibouti, la Sierra Leone. Chacun veut comprendre. Et on est devenu héros et nous prions que nos pays frères qui sont venus puissent prendre avec bonne oreille. Et aller, ce n'est pas le fait d'écouter. Il faut aller mettre en pratique.
Les participants au colloque ont choisi le président de la transition burkinabé pour être le porte-parole de la vision des jeunes à la prochaine réunion des Nations Unies sur l'agenda post-2015. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou, VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, African Music. Notre invité de ce soir, l'artiste congolais Fally Ipupa et son orchestre F Victime. Vos questions sur notre page Facebook Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, ou tout simplement VOA Afrique. J'attendrai vos SMS au plus 225 58 92 85 40. Encore une fois, c'est au plus 225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Un grand coucou aux amis de Kinshasa et de Brazzaville qui nous écoutent en direct sur Raga FM. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, eh bien c'est tout pour cette édition. À la mise en onde de ce soir, Joselle Morissin. Présentation Idrissa Seludia et Tatania Mosso.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.